Deutéronome chapitre 26, versets 4 à 10 pour notre méditation de ce jour. Deutéronome chapitre 26, versets 4 à 10. Au nom de Jésus. Le prêtre prendra la corbeille à portée et la placera devant l'autel du Seigneur, votre Dieu. L'homme prononcera alors cette déclaration devant le Seigneur. Mon ancêtre était un Araméen errant. Il s'est rendu en Égypte. Il y a d'abord séjourné avec le petit groupe de gens qui l'accompagnaient. Ceux-ci ont formé par la suite une grande nation, puissante et nombreuse. Mais les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés en nous imposant un dur esclavage. Nous avons appelé à l'aide le Seigneur, Dieu de nos ancêtres. Il a entendu nos cris et il a vu combien nous étions maltraités, brutalisés et opprimés. Il nous a fait sortir d'Égypte en recourant à des exploits irrésistibles et terrifiants, à des miracles et des prodiges. Il nous a conduits jusqu'ici et il nous a donné ce pays qui regorge de lait et de miel. C'est pourquoi maintenant j'apporte au Seigneur les premiers produits des terres qu'il m'a accordées. L'homme déposera alors devant le sanctuaire ce qu'il aura apporté et s'inclinera à terre, jusqu'à terre pour adorer le Seigneur, votre Dieu. Amen. Spontanément, l'expression qui m'est venue en tête en lisant ce texte et en préparant cette méditation, c'est le thème que je viens de vous mentionné pendant la liturgie tout à l'heure, tabula rasa, réinitialisation, remettre le compteur à zéro. Par définition, ce tabula rasa, cela exprime une table sans aucune inscription dessus. Et par extension, faire table rase, c'est faire référence au fait d'effacer le passé, et tout ce qui s'est passé jusqu'alors pour repartir à zéro. Ce Dieu de la Bible, qui n'est autre que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, est un Dieu qui a pour principe de toujours recommencer à zéro. Comme si de rien n'était pour lui, et il aime tout refaire, tout reconstruire. Faisons un petit survol de la Bible. Lors de la création, c'est à partir du néant qu'il créa le ciel et la terre, le ex nihilo, comme on dit. Dieu ne crée pas le monde à partir de quelque chose, mais à partir de rien. C'est ce qui fait sa nature de créateur. Après l'histoire de la chute, nous avons le récit de Noé et le déluge. Là aussi, c'est un grand tabula rasa. Le déluge qui a tout englouti dans l'espoir de tout renouveler, tout recommencer. Et si vous regardez bien cette histoire de Noé, juste après la création, c'est comme si on revenait au tout début de l'histoire. Le tohu-bohu, c'est-à-dire le vide, le néant, les ténèbres d'avant la création. Donc, c'est comme si Dieu voulait revenir au tout début. Il n'y avait que le vide, le chaos, les ténèbres. Mais par la suite, une fois que le déluge est terminé, la vie reprend, un nouveau départ avec cet oiseau qui a été envoyé par Noé et qui est revenu ensuite, qui n'est plus revenu. Parce qu'il a trouvé un nid. Ensuite, nous passons à l'histoire d'Abraham. Abraham, qui d'ailleurs est cité ici dans le texte, maintenant on commence dans notre texte, il partit de la terre de ses ancêtres, il a tout quitté vers une terre qu'il ne connaît même pas son existence. Vous imaginez cela? Mais il est parti parce que le Seigneur lui a dit. Et le texte souligne bien qu'il était araméen, un nomade. Il errait partout, il n'avait pas son chez lui, Abraham. Et même pour assurer la survie de sa tribu, il n'avait même pas un héritier, un fils avant la naissance d'Isaac. Il va falloir tout recommencer. Donc on peut dire qu'Abraham est parti aussi de rien. Mais après, comme dit le texte, il est devenu le père d'une grande nation. C'est ce qui est dit ici. L'histoire de tous les autres patriarches va aussi dans ce sens. À l'instar de Joseph. Joseph qui avait tout perdu. Vendu esclave en Égypte, pourtant il avait une place favorable auprès de son père. C'était le petit chouchou de Jacob. Mais là, il est réduit à l'esclavage. Il a été vendu esclave, donc normalement, il n'avait plus de vie. Il n'a plus de futur. Quand tu es réduit à l'esclavage, tu n'as pas d'avenir. Tu ne fais que survivre, manger, dormir. Or, c'est dans ce trou à rats qu'il a retrouvé la rédemption. Oui, c'est en prison. Oui, c'est en étant maltraité par Putiphar. C'est par ce chemin difficile, sinueux, qu'il s'est même fait un nom puissant. Il est devenu premier ministre d'Égypte. Départ à zéro. Et quelle est sa fin ? Le peuple d'Israël aussi, réduit à son tour à l'esclavagisme pendant 430 ans. Le jour de leur libération, ils n'avaient que leurs chaînes, les plaies sur leur dos, dans leur corps, dans leur chair. Mais ils quittaient l'Égypte avec une richesse incommensurable, donnée par les Égyptiens. Et pourtant, ils n'étaient que des moins que rien. Voilà si je brasse un peu l'histoire, si on continue encore jusqu'à la captivité, c'est toujours la même histoire qui revient. En gros, le texte que nous avons aujourd'hui trace un peu, à peu près, le parcours de vie de ce peuple d'Israël en mettant en relief qu'à chaque fois que ce peuple était sur le point de disparaître, sur la carte, l'Éternel fait renaître ce peuple de ses cendres. À chaque fois où on dit « c'est fini pour Israël », et là, il y a un germe qui pousse. Et ça a été repris dans le livre d'Ésaïe pour annoncer la venue du Messie. Ce principe de tout recommencer se fait surtout ressentir en matière de pardon. Quand Dieu pardonne, par exemple, il ne tient plus compte du passé, si vous venez de suivre les lectures tout à l'heure. Contrairement à nous, nous les êtres humains, nous aimons ressasser le passé, voire fouiller même dans la vie du passé d'une personne, chercher la petite bête dans son passé en vue de le détruire. C'est ce qui nous fait plaisir. Et Dieu, lui, qui sait tout, omniprésent, omnipotent, omniscient, il efface l'ardoise. Le grand souci du pécheur, ce n'est pas les péchés qu'il a accomplis, mais c'est plutôt le refus de croire au pardon. C'est là le problème. Derrière ce récit du parcours des patriarches et du peuple d'Israël mentionné dans le livre de Deutéronome, cela n'était pas un parcours facile. Ça a été jonché de rébellion contre Dieu, d'incrédulité, bien sûr, de manque de foi. Si on dresse le tableau de ce peuple, il n'y a rien qui justifie le pardon de Dieu pour ce peuple. C'est un peuple à la nuque raide, comme dit la parole. C'est un peuple qui s'est rebellé plusieurs fois contre Dieu. C'est un peuple qui a voulu tuer Moïse même. C'est un peuple qui manque de foi. Un peuple qui a désobéi volontairement l'Éternel. À répétition, mais pas une seule fois. Et pourtant, à chaque fois, l'Éternel ne cessait pas de renouveler son engagement pour Israël. C'est pour ça que je l'ai lu pendant la confession de péché. Comment pourrais-je t'oublier, Éphraïm ? Comment pourrais-je t'oublier, malgré ce que tu m'as fait ? Je ne suis pas un être humain, je suis Dieu. Heureusement que Dieu n'est pas comme nous. Heureusement que Dieu ne fonctionne pas comme moi, si mauvais, qui essaie de mettre des loupes partout. Ce Dieu qui dit, j'oublie ta rébellion. Parce que j'ai fait alliance avec ton serviteur, mon serviteur Abraham. À chaque fois, il le redit. Chers amis, l'inconstance du peuple de Dieu n'a pas empêché l'Éternel de tenir son engagement vis-à-vis de lui. Paul aussi, il est très clair dans ses propos expliquant cela, dans ses mots en disant à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles à Dieu, il demeure fidèle, car il ne peut pas se mettre en contradiction avec lui-même. » J'aime bien ce verset. « Si nous sommes infidèles à Dieu, lui, il demeure fidèle, car il ne peut pas se mettre en contradiction avec lui-même. » Quand Dieu nous a dit « Oui, tu es mon enfant, c'est pour toujours. » Ça ne change pas. La fidélité de Dieu ne dépend pas de notre loyauté vis-à-vis de lui. La fidélité de Dieu ne dépend pas de ta fidélité envers Dieu. Pierre avait posé cette question. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère ? 7 fois. Déjà, pour lui, c'est beaucoup 7 fois quand même. Jésus lui a répondu, non. 7 fois, 77 fois. Par jour, mais pas toute une vie. Heureusement que l'Éternel, comme je l'ai dit, ne fonctionne pas comme moi. Et cette grâce de Dieu, comme je l'ai dit à Farsienne hier, cette grâce de Dieu, elle est choquante, elle est scandaleuse, parce que ce n'est pas juste. Dans notre justice humaine, il faut du tac au tac, parce que tu m'as fait du mal, je te redonne le coup. C'est ça ce que nous voulons imposer aussi à Dieu. Et quand il ne le fait pas, on est choqué. N'est-ce pas le problème du psalmiste dans le psaume 73 ? Je trébuche face au païen que tu bénis, Seigneur. Pourquoi tu le bénis ? C'est ça notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu juste. Il bénit tout le monde. Même ceux qui ne l'aiment pas, il le donne, le soleil. Le soleil n'est pas seulement au-dessus de ton toit. Le soleil aussi est avec celui qui est en train de se balader dans la forêt maintenant au lieu de venir au culte. La pluie n'est pas seulement sur tes terres, la pluie aussi est aussi dans les terres de ton ennemi. Et même les plantes dehors, Dieu prend soin d'une chaque espèce. Voilà la justice de Dieu. Cette justice de Dieu, on ne la veut pas. Elle est choquante. C'est facile de dire, comment vas-tu ? Par la grâce de Dieu. Je dis, est-ce que vous supportez vraiment ce mot « grâce » ? Ce mot « grâce », c'est-à-dire aimer celui qu'on ne devrait plus aimer. C'est ça que ça veut dire « grâce ». C'est trop facile de dire « oui, la grâce de Dieu ». Mais en nous-mêmes, on n'accepte pas cette grâce. Et la question qui se pose à la suite de cela, pourquoi Dieu agit-il ainsi alors ? Ou je dirais, sur quelle base se repose le pardon divin ? Alors, C'est l'Éternel lui-même qui nous donne sa réponse dans Ésaïe, chapitre 43, verset 25. « Mais je prends sur moi, oui sur moi, de pardonner tes révoltes et de ne plus garder les souvenirs de tes fautes. » Ce n'est pas à cause de toi. Ce n'est pas parce que tu t'agenouilles 2 heures tous les jours en priant que je vais te pardonner. C'est à cause de moi, dit l'Éternel. C'est parce que j'ai fait un engagement envers moi-même. Et toi, tu n'es que le bénéficiaire. Et ensuite, pardonner tes révoltes et de ne plus garder le souvenir. C'est magnifique. Le pardon des êtres humains, je mets de côté. Tu m'as fait du mal? Oui, mais je mets de côté, mais je garde ça dans mon coffre-fort avec une clé double dans ma poche. Si tu m'embêtes un jour, je ressors les dossiers. Ah, en 1999, tu m'as fait ceci, hein? Je t'ai pardonné, mais je ressors ça sur la table. C'est ça le pardon de l'être humain. Mais Dieu, quand il pardonne, il oublie. Il a effacé ça de sa mémoire pour dire « tout est redevenu comme avant ». Il prend sur lui et tout dépend uniquement de lui et non de l'être humain. Une autre référence biblique, je trouve qu'elle a été mal traduite, je dis bien mal traduite dans l'Évangile. En tout cas, c'est la disposition de la phrase qu'il fallait permuter. C'est dans la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9. Je vais reprendre ce qui est écrit dans la Bible. « Mais si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. » Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Normalement, il faut permuter ces deux phrases en disant « Car il est juste et il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal si nous reconnaissons nos péchés et nous pouvons avoir confiance en Dieu. » Dieu reste toujours juste, que tu sois juste ou non. Sa justice ne dépend pas de ton attitude. La justice de Dieu, elle est constante. Mais si toi, tu reconnais tes péchés, grâce à cette justice qui est fiable, qui est sûre, tu peux espérer le pardon. Dieu, chers amis, est toujours digne de confiance, même si nous ne reconnaissons pas nos péchés. Au contraire, puisqu'il est digne de confiance, que nous pourrions certainement nous confier à lui et reconnaître nos torts. Et pour clôturer cette méditation, notre lectionnaire de ce jour met en exergue que seuls ceux qui ont compris cette bonté de Dieu pourront venir à lui. Vous savez, pour convertir quelqu'un, rappelez-vous de votre histoire de conversion. Parfois, on oublie trop vite. Dans quelles circonstances tu t'es rendu compte que tu étais pécheur quand tu as été inondé de cet amour de Dieu? La loi ne fait pas repentir le pécheur. Les remontrances ne font pas fléchir les genoux du pécheur. Regardez cette histoire à la croix dans l'évangile de Marc. Jésus qui était dans son agonie au-dessus et le soldat romain au pied de la croix. Un soldat romain habitué à la guerre. J'aime bien cette image, comme s'il rendait les armes aux pieds de Jésus et il a dit, il est vraiment le Fils de Dieu. C'est ça qu'il a mis, qui a détruit son cœur, orgueilleux. En voyant ce Fils de Dieu qui avait la capacité et les moyens de riposter, mais qui a choisi de se taire. C'est ça qui a fondu le cœur de ce militaire. Aucun mot. C'est pas parce qu'il a vu Jésus sortir du tombeau que oh, il est fort, donc il est le Fils de Dieu. Non, en le voyant mourir ainsi dans l'agonie. C'est comme ça que les gens vont ouvrir leur cœur. Si tu veux que les gens soient à genoux devant Jésus, prêche l'amour de Dieu. Ne prêche pas la loi. La loi renforce encore les cœurs des gens à s'auto-justifier. Plus tu en parles, plus il va te dire « Mais non, j'ai rien fait. » Mais si l'amour de Dieu inonde son cœur, je vous assure, toutes les chaînes vont se défaire. Les cœurs de pierre vont craquer. C'est cet amour qui était incarné à la croix qui nous a ouvert les yeux, n'est-ce pas? Et le Seigneur te dit, va, fais de même. Amen.